Vous écoutez France Culture.
Et bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous.
Hey, you know what?
Suite et mi-chemin ce mercredi d'une semaine sur le bac philo dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine où 5 professeurs chevronnés, 5 enseignants vaillants, amoureux de leur métier, se proposent de plancher à votre place pour vous montrer qu'aucune difficulté n'est insurmontable, à condition de l'affronter loyalement et de penser sans préjugés. Bonsoir Philippe Danino.
Bonsoir,
un grand bienvenue à France Culture, au nouveau chemin de la connaissance et bienvenue de nouveau puisqu'on avait déjà eu le plaisir de vous recevoir pour y parler de Spinoza. Bonsoir également à tous vos élèves du lycée Buffon qui vous accompagnent, qui ne rateraient pour rien le spectacle de leur professeur passant sur le grill. Peut-on penser sans préjugés? C'est la question du jour, enfin de tous les jours, et à laquelle il importe de répondre en 50 minutes. Alors, élève Danino, nous vous écoutons.
La question peut paraître assez étonnante, et je crois qu'il ne faut jamais manquer de commencer par s'étonner sur d'une question qui est posée. Peut-on penser sans préjugés? On pourrait se dire immédiatement oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette question? Il suffit d'examiner un petit peu les choses, il suffit de raisonner un petit peu, il suffit d'être vigilant par rapport à ce qu'on nous a appris, et à ce moment-là, effectivement, il n'y aurait aucune difficulté à penser sans préjugés. Mais d'un autre côté, si cette question se pose, et là je crois que chaque élève doit être absolument vigilant sur ce qui motive une question, et ce qui motive une question en philosophie, c'est toujours une difficulté, donc ça veut dire que cette question quelque part ne va pas de soi, c'est le fait qu'il n'est peut-être pas si simple ou si facile de penser, c'est-à-dire effectivement un terme qu'on aura évidemment à envisager dans la diversité de ses définitions, de ses acceptions, pas si facile de se défaire, par exemple, d'une éducation, d'un milieu culturel, des impressions premières de l'enfance, etc.
Sans compter, Philippe Danino, qu'il faut également se défaire peut-être du préjugé selon lequel on peut penser sans préjugé, ce qui est un des problèmes que le sujet posera. En tout cas, ce qui est important ici, juste pour marquer un point quand même, ce qui est important ici, c'est d'être aussi attentif à sa première réaction. Quand on est face à un sujet, on ne le dira jamais assez, hein, il y a aussi un moment, j'allais dire, d'irréflexion face au sujet, où il s'agit de réagir au sujet, d'être attentif à ce qu'un tel sujet nous inspire spontanément.
Oui, alors là, effectivement, évidemment, il y a une diversité de sujets, il y a des sujets dont on peut sentir qu'ils s'enracinent plus ou moins sur la pratique. Si on pose un sujet de baccalauréat sur quel est le rôle de l'hypothèse scientifique, c'est peut-être pas tout à fait pareil que peut-on penser sans préjugés. Mais ne jamais se défendre et même toujours s'autoriser à se demander assez spontanément comment on reçoit la question et effectivement quelle réponse spontanément on pourrait lui donner pour après aller doucement vers le chemin du questionnement.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette spontanéité qu'il faut rechercher au début de la dissertation témoigne en tout cas d'une volonté de la part de l'élève comme du correcteur d'ailleurs de penser sans préjugés.
Voilà, de penser sans préjugés, et c'est ce que, disons, pour le dire rapidement, c'est ce qu'on essaie quand même d'inculquer aux élèves pendant l'année d'enseignement de la philosophie, qui est une espèce de prise en charge par soi-même de sa propre pensée, en s'autorisant justement à questionner, à examiner, sans, si vous voulez, recouvrir, soit d'idées trop reçues, d'opinions communes ou même de références philosophiques tout de suite.
Alors il faut aller, maintenant qu'on a vu quelle était la première réaction, il faut aller, comme on le fait à chaque fois dans ces émissions, cette semaine, qui est vraiment pour les élèves et pour leur montrer comment ça se passe ou comment ça peut se passer, il faut en venir à la problématique, c'est-à-dire, hein, encore une fois, on le dira jamais assez, au fil directeur qui doit gouverner toute la dissertation, la question à laquelle il faut répondre. Alors comment est-ce qu'à partir d'un sujet comme celui-là, où il y a peu de termes, on peut parvenir à obtenir une problématique, une alternative, une question, enfin un fil conducteur?
Oui, alors bon, une alternative, vous avez raison. Il est bien évident que la problématisation du sujet, remarque en passant, n'est jamais quelque chose de spontané, de direct ou d'immédiat. Jamais. Donc elle passe nécessairement, sans malheureusement tomber du ciel, nécessairement par une analyse du sujet et une prise en charge des termes du sujet, de la polysémie, de ses concepts, etc. Il me semble que pour cette question-là, peut-on penser sans préjugé, il y a déjà deux présupposés qu'il s'agit de mettre en évidence. Le premier présupposé, c'est que tout se passerait comme si on pensait avec. Déjà des préjugés, donc pourquoi, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est grave ? Et le deuxième présupposé, qui est, je pense, le présupposé de...
En somme, est-ce qu'on peut penser quand même ? Est-ce qu'on peut penser
oui.
quand même ?
Voilà. Voilà.
Est-ce qu'on pense quand même, même quand on a des préjugés ?
Voilà, c'est ça.
Même quand d'autres pensent à votre place, en somme.
C'est ça. Et le deuxième présupposé, qui est un présupposé de tout sujet de philosophie, c'est qu'il y aurait une difficulté à penser sans préjugés. Sans quoi, si vous voulez, la question n'aurait pas grand sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est l'intérêt ? Quel est l'enjeu ? Pourquoi devrait-on, à la limite, penser sans préjugés ? À partir de là, évidemment, il y a lieu d'examiner les deux grands termes du sujet, qui est un verbe, penser, et un nom au pluriel, bah, prendre en compte le pluriel, en effet, un autre présupposé d'une pluralité possible de préjugés, qui est donc celui de préjugés. Pour aller rapidement et en venir, essayer d'en venir à la problématique, le terme de penser peut désarçonner. C'est-à-dire, quand on a le terme de pensée dans un libellé de sujet de baccalauréat ou d'autres espèces d'examens ou de concours en philosophie, il faut essayer de lui faire un sort, pas trop vite, mais d'essayer de ne pas se laisser submerger. Pensée, évidemment, c'est un terme qui est très large, qui est très flottant, qui peut comprendre énormément d'acceptions, rêver, méditer, songer, imaginer, vouloir, etc. Mais on pourrait partir de quelque chose d'un petit peu commode, que j'exploiterai ici, qui est d'une part un sens large d'un ensemble d'activités psychiques. C'est un peu la définition que donne Descartes. Hein. Qu'est-ce qu'une chose qui pense ? C'est une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme,
qui imagine, qui
nie,
qui sent,
etc., voilà,
oui.
qui veut, qui ne veut pas. Et une acception un peu plus restreinte qui va peut-être plus particulièrement nous intéresser ici, qui est la démarche d'une réflexion rationnelle, conduite avec une certaine rigueur. Donc la réflexion avec examen et vigilance, je dirais. Le préjugé, maintenant, si on s'intéresse à ce terme-là, préjugé, c'est, comme son nom l'indique, juger avant, c'est-à-dire juger avant de juger. C'est-à-dire, effectivement, c'est une absence de réflexion qui conduit à adhérer à une idée, à la tenir pour vraie. Comme dirait Voltaire, c'est une opinion sans jugement. Voilà. Une opinion sans jugement. Et je recommande un très joli article de Voltaire dans son dictionnaire philosophique à l'article préjugé sur ce point-là. Donc, ici, prendre en compte en même temps, une fois qu'on a commencé à cerner cette notion de préjugé dans sa première acception, prendre en compte, comme je le disais tout à l'heure, sa diversité, puisqu'il est au pluriel. Et ce qui nous permettra de faire un peu concret, si je puis dire. Il ne faut jamais manquer de le faire. Divers types de préjugés, préjugés des sens sur la distance du soleil, des préjugés historiques, comme dit Voltaire aussi, croire en des légendes, comme celle de Rémus et Romulus, et puis préjugés religieux, préjugés moraux, préjugés raciaux, préjugés ethnocentristes, donc à l'égard des choses, à l'égard de l'ordre du monde, à l'égard des autres, évidemment, surtout, c'est-à-dire toutes ces formes-là qui relèvent, comme on l'a dit, donc de l'opinion sans jugement. À partir de là, si en effet la difficulté est de penser sans préjugé et que le préjugé est une sorte d'opinion sans jugement, sans réflexion, sans véritable justification rationnelle, on peut se demander quel est le sens, la possibilité, je dirais, mais surtout le sens d'une pensée autonome. Voilà. Si le préjugé, et vous le suggériez tout à l'heure, est ce qui empêche une pensée dans son cours autonome, donc de penser par elle-même, si je puis dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, est-ce que c'est possible, certes, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire de penser de façon autonome ? Est-ce que c'est se passer, en effet, de toute espèce de préjugé qui serait à bannir, à éradiquer, à répudier ? Ou bien est-ce qu'une pensée autonome admet des formes de préjugés qui, précisément, n'entravent pas cette autonomie ?
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas également une troisième possibilité qui serait, mais alors peut-être y viendra-t-on dans le cours de la dissertation, le fait que, bien souvent, quand nous croyons penser tout seul, en gros, celui qui se flatte de penser tout seul parce qu'il ne sait rien, parce qu'il n'a rien appris sur un sujet et que par conséquent, il considère que son jugement en cette matière est vierge de tout préjugé, puisqu'on ne lui a rien mis dans la tête, on ne lui a pas bourré le crâne avec les préjugés qui vont sur tel ou tel sujet. Celui qui donc croit qu'il pense de façon autonome, en réalité, pense tout seul et pense comme tout le monde.
Oui, alors il y a une différence entre penser tout seul et penser par soi-même. Voilà, je peux penser effectivement tout seul dans une hétéronomie totale de la pensée. C'est-à-dire que là, la force... En fait, je pense que ce que vous voulez dire, la chose suivante, c'est que la force et l'ancrage du préjugé est tel qu'il peut faire illusion. Et en effet, on préjuge en même temps qu'on a souvent l'illusion que ce dont on juge par préjugé a fait l'objet d'un examen, d'une démonstration. Et c'est ça la force du préjugé.
En somme, donc, s'il fallait s'en tenir à un axe, ce serait qu'est-ce qu'une pensée autonome ? Consiste-t-elle à se passer de tout préjugé ? Ou bien y a-t-il des préjugés qui n'entravent pas l'activité de pensée ? Donc là, on a une problématique, un axe, un angle à partir duquel on choisit de traiter le sujet. Il faut préciser quand même une chose, c'est que même sur des sujets... non pas simple, mais l'intitulé, dont l'intitulé comporte peu de mots, même sur des sujets comme cela, on peut les problématiser de façon très différente. C'est ce qui compte n'est pas tellement ce qu'on mettra dans la dissertation que la façon dont on l'organise.
Oui, il faut rappeler une chose, et excusez-moi si ce sont des évidences. Traiter un sujet de philosophie au baccalauréat comme ailleurs, c'est en effet traiter le problème que la question soulève. Parce que la question philosophique a cela de spécifique, que justement la réponse n'est pas du tout évidente, et qu'elle fait débat, qu'il y a une difficulté. Problématiser, c'est formuler cette difficulté. Maintenant, rien ne dit qu'à un sujet, il y a un problème. Donc on peut effectivement problématiser sur, par exemple, la pluralité ici des préjugés. J'aurais pu problématiser beaucoup plus directement sur l'acception du mot « penser », etc. Donc là, peut-on penser sans préjugés ? Je m'axe plutôt sur « penser » et je regarde dans les faits si il y a dans la relation au préjugé, s'il y a en effet une sorte de réception possible ou un rejet radical du préjugé dans ce qui s'appelle pensée.
Alors on va aller dans le corps de la dissertation. Avant d'y aller, on va donner une version peut-être musicale d'un homme qui se flattait de penser sans préjugé et qui donnait au préjugé d'ailleurs des noms extrêmement précis, notamment Dieu et Maître. On va écouter quelques mesures de Léo Ferré avant de parler avec vous, Philippe Danino.
La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître.
Ni Dieu ni maître sur France Culture. Un but peut-être, celui de faciliter la tâche de nos candidats bacheliers. Et c'est en votre compagnie, Philippe Danino, qu'on le fait ce mercredi. Peut-on penser sans préjugés ? C'est le sujet du jour. On a vu, au terme de l'introduction et de la fabrication de la problématique, qu'il s'agissait de se demander finalement ce qu'était une pensée autonome, s'il s'agissait de se passer de tout préjugé, ou bien d'envisager des préjugés qui n'entraveraient pas l'activité de pensée. Alors à partir de cette alternative, de cette problématique, comment on construit un plan ? Quel plan proposez-vous, tout simplement ?
Alors, le plan que je propose, donc, à partir effectivement de cette problématique, est le suivant. C'est un plan en quatre moments. Dans un premier moment, je me propose de montrer qu'on pense avec des préjugés, c'est-à-dire que notre pensée est d'abord, comme toujours, pétrie de préjugés dans une quasi donc impossibilité de s'en défaire. Bien sûr, ce moment-là induit une certaine acception du mot « pensée », que je remettrai en question au cours d'un deuxième moment, où si on prend précisément « pensée » au sens fort, alors « pensée » n'est pas préjugé. Et que si « pensée », c'est l'exercice de l'autonome de la raison, alors dès que l'on pense, il n'y a plus préjugé. Donc le deuxième moment, c'est effectivement « pensée sans préjugé ».
Plutôt quand il y a des préjugés, c'est qu'on ne pense pas encore.
Voilà. Voilà.
Ça, c'est la deuxième partie.
Voilà. Et c'est plutôt sur ce encore que je développerai justement dans le troisième moment, qui consiste à montrer que la pensée est un travail, un apprentissage, qui consiste à penser contre les préjugés, c'est-à-dire d'abord contre elle-même. Et du coup, que la pensée n'est pas un donné, mais apparaît comme un effort. Mais à partir de là, je me demande encore s'il est si facile de parvenir à penser sans préjugés, même en science ou même en philosophie. et d'essayer d'énoncer des limites d'une pensée sans préjugés, ce qui ouvre, je pense, à une positivité des préjugés, c'est-à-dire à une mise en question, justement, d'une acception peut-être un petit peu trop monolithique du préjugé. Peut-être y a-t-il de bons préjugés, aussi paradoxal ou insolite que cela puisse paraître.
Reste à savoir, évidemment, en vertu de quels critères on établira la qualité d'un préjugé, la bonne qualité d'un préjugé. Ça, c'est le quatrième temps d'une dissertation iconoclaste, puisqu'elle est en quatre parties. Vous serez très certainement, hein, on n'a pas encore reçu les deux derniers impétrants, mais vous serez très probablement le seul à procéder de cette façon. Alors allons-y, hein, pensez avec des préjugés, comment, ça c'est le premier temps. Avant de se demander si l'on pense encore quand il y a des préjugés, essayons de voir dans quelle mesure donnons sa chance à la possibilité de penser avec des préjugés. Philippe Danino.
D'abord, je prends en compte effectivement le présupposé de cette difficulté, c'est-à-dire que comment la pensée ne procéderait-elle pas d'abord d'opinions reçues, de préjugés. C'est-à-dire qu'il s'agirait de montrer en effet que les préjugés sont aux sources de la pensée et de montrer justement qu'elles peuvent être toutes les causes. Et les sources donc de cette pensée qui se manifeste dans le sens commun, qui se manifeste sous la forme du jugement hâtif, qui se manifeste dans le racisme ordinaire, qui se manifeste effectivement dans les expressions populaires comme les sanctions du genre « on n'y peut rien ». Voilà, est-ce qu'il est bien sûr qu'on n'y puisse rien, etc. Donc quelles sont effectivement les causes et les sources de nos pensées aptes à manifester une présence, une omniprésence des préjugés ? Dans un premier moment, je montrerai des préjugés, je dirais, innés ou natifs. Et je m'appuierai ici sur Spinoza, par exemple, mais on peut s'appuyer sur beaucoup d'autres, sur l'éthique de Spinoza et sur le fameux préjugé finaliste que Spinoza s'évertue à déconstruire dans l'appendice à la partie 1 de l'éthique. Ce préjugé finaliste qui, pour le dire très très vite, on n'est pas là pour l'expliquer véritablement, c'est une façon de voir la nature, où je pense que ce qui se passe dans la nature, c'est pour moi... et que la nature donc agit en fonction d'intention et en vue de fin.
Bien. Mais c'est-à-dire, avant de dire que c'est pour moi, c'est surtout qu'elle agit comme moi.
Elle agit comme moi.
De sorte que quand on trouve une intention dans la nature, c'est qu'on ne fait qu'exporter le modèle humain.
Voilà, il y a une projection avant effectivement qu'il y ait un anthropocentrisme, en effet.
Ce qu'on retrouve dans le théisme voltairien, par exemple, d'une nature qui serait comme un artisan, fonctionnerait comme un artisan, donc il y aurait aussi une intention, une forme de théologie laïcisée, mais théologique quand même.
Voilà. Alors, cette projection-là, Spinoza la considère comme normale. C'est-à-dire, effectivement, comme il le dit, nous naissons. Voilà pourquoi je parle de préjugés natifs. Nous naissons ignorants des causes des choses, et du coup, nous sommes conduits donc par les images. Par les images qui correspondent à nos désirs, à ce qui nous est utile. Donc c'est spontanément que je juge du réel tel que je suis et non pas du tout tel qu'il est. De la même façon, Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, nous dit ceci, je cite, « Le soleil se lève, la lune aussi, la terre est immobile, et ce sont là des préjugés physiques naturels. » Bon. C'est-à-dire que si on prend aussi le préjugé comme jugé en fonction de perception première, alors en effet, nos jugements sont pétris de préjugés.
Oui, et prendre ce que nous voyons pour ce qui est. Héraclite qui, levant le pied, allongé sur la plage, constate que la lune fait le quart de son pied, à peu près.
Voilà, c'est-à-dire que... Alors, ça, c'est lié à une idée qu'il faudra effectivement très très bientôt mentionner, qui est que le préjugé se prend pour vérité. Et il se prend pour vérité à partir du moment où il procède d'une façon d'hypostasie, en effet, ce qui est proprement subjectif. À partir du moment où ce qui me concerne, mon utile, mes impressions, mes sentiments, mes sensations, j'en fais des êtres réels, exactement comme je penserais que la chose qui m'est utile, je pense qu'elle est bonne en elle-même, alors effectivement, là, je suis dans le préjugé.
Alors, il faudra savoir, évidemment, ce qui distingue le fait de prendre ce qu'on perçoit pour des vérités, donc ce préjugé qui dégénère en sentiment d'être convaincu de ce qu'on pense, et de celui qui ne doute pas de ce qu'il raconte et qui pourtant pense sans préjugé, façon de Descartes,
oui,
par exemple.
Oui. Alors, ça, effectivement, c'est une question justement de fondement de la pensée et la façon dont peut procéder l'autonomie de la pensée. Préjugé inné, natif, je développerai également dans un deuxième sous-moment, si vous voulez, les préjugés acquis, pour le dire vite, c'est-à-dire l'importance donc de l'enfance et de l'éducation, en m'appuyant sur Descartes. C'est-à-dire que nous avons d'abord affaire aux autres, hein, c'est ça l'argument, si vous voulez, les autres dont nous héritons moralement, intellectuellement avant éventuellement de raisonner par nous-mêmes. On connaît bien cette phrase de Descartes dans la deuxième partie du discours de la méthode. Nous avons tous été enfants avant que d'être hommes. Il nous a fallu longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs. Nos appétits et nos précepteurs, hein, c'est-à-dire effectivement des inclinations propres à l'enfance, sur lesquelles je reviendrai. Et puis nos maîtres, nos tuteurs premiers, qui étaient souvent contraires les uns aux autres et qui, ni les uns ni les autres, ne nous conseillaient peut-être le meilleur. Et il est presque, conclut Descartes, il est presque impossible que nos jugements soient très purs ni très solides. Donc, importance ici de l'enfance sur laquelle Descartes insiste. Par exemple, l'article 71 des principes de la philosophie énonce ceci, la première et la principale cause de nos erreurs sont les préjugés de notre enfance. Donc, au fond, pourquoi Descartes s'en explique ? Parce que c'est un moment où l'âme ne raisonne pas, c'est un moment où l'âme n'est pas assez puissante pour s'arracher aux impressions premières du corps. C'est un état passif de réception. Je pense qu'il y a cette question de la réception pourrait être développée exactement comme on parle d'idées reçues. C'est en effet bien ce que je reçois, un peu sans moi et malgré moi, en même temps. Donc c'est le moment de la subjectivité qui, en effet, ne prend pas garde à prendre comme objectif des sensations qui sont essentiellement subjectives,
Comme le fait que la Terre est immobile, fait incontestable aux yeux du corps, si j'ose dire, que la Terre est immobile. Descartes, c'est fou d'ailleurs, fais une petite parenthèse, Descartes est un chevalier de la table rase. C'est celui qui il est celui qui correspond au désir que nous avons bien souvent. D'ailleurs, les philosophes sont les interprètes de pulsions ou de passions en nous. Descartes correspond à la passion que nous avons de faire du passé table rase.
Oui, alors cette question de la table rase, un certain nombre d'élèves pourraient vous en parler ici, puisqu'on étudie un petit peu Descartes en ce moment en classe. La passion de la table rase, c'est-à-dire la prise en compte précisément de l'ancrage et de la force du préjugé de la crédibilité et l'entreprise du recommencement, de la refondation, on dirait davantage actuellement. L'entreprise de la refondation... par soi-même et par soi seul. Donc, il peut paraître ici quelque chose d'extrêmement immodeste, d'extrêmement orgueilleux de la part de Descartes, mais il s'en explique dans le discours de la méthode en disant qu'un seul s'y consacre, ce n'est pas une moindre garantie que si 15 s'y consacraient.
Bien. Alors, donc, préjugé natif, préjugés acquis, hein, que ce soit le préjugé finaliste chez Spinoza ou chez Voltaire, ou bien chez Descartes, les préjugés de notre enfance, cet arsenal de préjugés n'invite pas à répondre positivement à la question.
Non, pour l'instant, hein. D'autant que, troisièmement, fini, si vous voulez, voilà, on peut évoquer aussi un certain nombre d'inclinations naturelles qu'on pourrait aussi rattacher à l'enfance. Une qui me semble importante, c'est la précipitation. On parle aussi Descartes, c'est-à-dire que le préjugé a été parfois défini comme un jugement précipité. Et là, ce qui me semble intéressant, entre parenthèses, c'est cette question du temps, du tempo de la pensée, qui précisément... Alors, est-ce que c'est sa condition première à la pensée pour être véritablement pensée ? L'effort requis pour bien juger demande du temps, irréductiblement. Et peut-être effectivement que le préjugé vient du fait que nous soyons un peu trop pressés de savoir ce qu'il en est des choses.
Le fait que nous soyons pressés pourrait également justifier qu'on cède à la tentation de tout balayer d'un revers de la main et de dire on va repartir à zéro sans prendre le temps justement de choisir parmi, de trier finalement le bon grain de livret et de choisir parmi les préjugés ceux qui seraient propices à une vie mieux vécue.
Oui, alors pour le coup, enfin, entre parenthèses, il me semble que c'est pas tout à fait l'attitude de Descartes qui montre dans le discours de la méthode qu'il y a certainement des choses à prendre et qu'il est quand même redevable pour partie à l'enseignement qu'il a reçu.
C'est pour ça que je vous dit, voilà, c'est ça, c'est que Descartes lui-même rend hommage à ça, ou Spinoza d'ailleurs, lui-même à sa façon, hein. On en a parlé avec Nicolas Franck, mais Spinoza lui-même, découvrant un souverain bien, ne renonce pas pour autant à la lubricité, à l'honneur ou à la gloire.
Voilà, hein. C'est une question de placement, si je puis dire, de ses biens, d'importance à leur accorder. Inclination naturelle, précipitation, ici un texte majeur pour ce sujet, je pense. Qu'est-ce que les Lumières de Kant ? Qui parle de la paresse, de la lâcheté, de la facilité à penser par les autres, et qui a effectivement cette phrase magnifique, « Pourquoi penser pourvu que je puisse payer ?» qui peut avoir effectivement des résonances, mille résonances étonnamment modernes.
Absolument. Et puis avec les il prend l'exemple de toutes les institutions qui dispensent de penser et qui demandent simplement qu'on obéisse, voilà, ou que l'on se soumette. C'est vraiment un texte qu'il faut lire quand on a 17-18 ans, puisque c'est un texte qui décrit le passage à l'âge adulte, hein, c'est-à-dire la sortie de l'état minorité, dont l'homme d'ailleurs est lui-même responsable, dit-il. Mais
voilà. Alors ça, on y viendra effectivement plus tard dans la considération d'éventuels remèdes. C'est un texte en effet qu'il faut lire, d'autant que c'est un texte qui doit faire 5 pages, ou 6 pages, si vous voulez.
Donc, ouais, c'est un texte majeur, 5 pages, c'est écrit de façon lisible, et pourtant, c'est du Emmanuel Kant.
Voilà, un texte majeur, vous l'avez dit. Voilà. C'est exactement ça.
Texte majeur sur la majorité. Voilà. Alors, donc, allons-y, on est pour l'heure toujours dans la première partie.
Donc, tirons un bilan. Et si on tire un bilan, impossibilité, apparemment, de penser sans préjugés, qui apparaissent vraiment comme la matière première de nos pensées, la matière persistante aussi de nos pensées. Donc, voilà effectivement quelle première solution on peut donner au problème, c'est-à-dire en effet donc impossibilité de penser véritablement autonome. Cela dit, cette impossibilité déclarée me semble reposer sur un présupposé, celui d'une certaine définition de la pensée. Qu'est-ce qu'on appelle penser dans tout ce qu'on a dit jusque-là, implicitement ?
Question pratique, pardonnez-moi, Philippe Danino. Cette définition, cette redéfinition de la pensée qui invite évidemment à passer à une autre partie, oui, dans votre dissertation, est-ce que cette redéfinition de la pensée, vous vous y livrez à la fin de la première partie pour justifier le passage à la seconde, ou est-ce que vous commencez la deuxième partie en disant tout ce qu'on vient de dire présuppose ou préjuge une certaine définition de la pensée qu'il s'agit maintenant de contester ? Où est-ce que ça se situe, ça ?
Moi, je pense que ça fait transition. Ça fait transition,
c'est-à-dire
que...
Donc, on est encore dans la première partie.
Voilà, on est dans la première partie, on tire le bilan, on se dit oui, mais là, il y a quelque chose qui est insuffisant. Il y a quelque chose qui appelle un rebondissement de la réflexion. Il y a un certain impensé ici. Et reprenons-nous là-dessus, je l'indique. Et du coup, effectivement, on est invité à passer à la partie suivante.
Alors, comment on redéfinit donc la pensée ?
Alors ici, effectivement, on a implicitement compris que la pensée était le fait d'avoir des opinions. Le fait d'avoir des opinions. Bon. C'est-à-dire ici, une pensée qui, si... elle pense avec préjugé, ne juge pas vraiment. Une pensée hétéronome. La question est la suivante. Est-ce que c'est encore de la pensée ?
En somme, c'est la pensée de celui qui dit « moi, je pense que ».
Oui, c'est ça. Voilà. C'est une sorte d'opinion. Bon, alors, l'opinion est quelque chose de plus large que le préjugé. Et Kant différencie l'opinion du préjugé en disant que l'opinion, bon, ça peut se dépasser assez facilement. Le préjugé, c'est beaucoup plus difficile. Mais ici, la pensée, si vous voulez, il y a une contradiction qui se fait jour, c'est qu'on pense avec préjugé, et la question la suivante, est-ce que quand on pense avec préjugé, c'est encore de la pensée, et pas simplement de l'opinion, de la doxa, ou même effectivement donc une forme inférieure de connaissance,
quoi. Et en même temps, est-ce que quand on pense sans préjugé, on ne doit pas penser indépendamment de soi, de sa propre histoire, de ce qu'on est, après tout, chez Kant, est-ce que le sujet empirique ne doit pas céder la place à un sujet transcendantal, à une sorte d'idéal subjectif qui penserait sans préjugé, juger, c'est-à-dire sans lui-même.
Alors, sans aller jusqu'au sujet transcendantal, sans doute s'agit-il d'entreprendre, de débusquer des préjugés d'abord en soi-même. Sûrement, il n'y a pas de raison, si vous voulez. Dans la mesure où, en effet, nous ne naissons pas savants, hommes de science ou philosophes, combien même, on y viendra aussi plus tard, il n'est pas sûr qu'on serait délivré de tout préjugé pour autant.
Donc penser, ça n'est pas avoir des opinions.
Alors penser, ce n'est pas avoir des opinions. C'est-à-dire que si penser, c'est l'activité d'une réflexion. C'est-à-dire qu'on en prend maintenant un sens plus strict. Et dans la copie, il faudrait le dire très explicitement. Nous changeons maintenant d'acception du terme penser, que nous considérons dans un sens plus strict ou plus fort, d'activité de réflexion. Alors à ce moment-là, il y a un divorce en nature entre pensée et préjugé, ce qui nous permet de passer dans une seconde partie de penser avec les préjugés à penser sans les préjugés. Ou si vous voulez, de penser et préjugé, comme on l'a dit là, à penser ou bien préjugés dans une seconde partie.
En somme, à se poser la question de savoir ce qui reste de la pensée quand on la soustrait à tous les préjugés, et s'il y avait de la pensée avant qu'on accomplisse cette opération de soustraction.
Oui, c'est ça. Et savoir surtout si je ne suis pas du tout en train de nier ce que je viens de dire, c'est-à-dire que nous ne sommes pas touchés d'abord par les préjugés. Je suis simplement en train de me demander, eh bien effectivement, si nous avons tant de préjugés, pouvons-nous encore dire que nous pensons.
Voilà, nous ne faisons pas dans une dissertation, nous ne disons pas en deuxième partie le contraire de ce qu'on a lu dans la première. On ne fait que creuser son propos, ce qui justifie qu'on l'infléchisse. Alors allons-y, deuxième partie.
La deuxième partie, donc, qui serait consacrée à l'idée que penser, justement, par nature, mais d'une nature que nous définissons justement là, exclut de préjugés, le fait de préjugés. Et je commencerai donc par redéfinir, c'est-à-dire explicitement, ce que c'est que penser, en disant ceci. D'une part, on pourrait prendre le terme de pensée, j'en ferai pas un grand cas ici, mais on pourrait, on est obligé de choisir aussi des voies. On pourrait prendre pensée au sens très large, c'est-à-dire au sens où penser, ça comprend le fait d'imaginer, de désirer, de rêver, de songer, etc. C'est-à-dire des formes de pensée, finalement, qui n'impliquent pas vraiment de jugement. Qu'est-ce que c'est que juger au fait ? Juger, c'est dire quelque chose de quelque chose. Juger, c'est attribuer le qualificatif de bleu au ciel. Le ciel est bleu est un jugement de réalité. Bon. Dire ce tableau est beau ou ce film est nul, c'est la même chose. C'est-à-dire, donc, j'attribue un prédicat qualificatif à un sujet.
Que ce jugement soit un jugement de valeur, un jugement moral, ou voilà. Bien un jugement...
Un jugement de goût.
Un jugement de goût, ou bien un jugement, j'allais dire, gnoséologique, enfin un jugement de connaissance.
Oui, ou de réalité, si on dit l'herbe est verte, par exemple. Voilà. Si j'admets effectivement des formes de pensée qui n'admettent elles-mêmes pas de jugement, alors à ce moment-là, je fais sauter le sujet, il n'y a pas de problème, on peut penser sans préjuger. Bien. Donc ça, c'est une possibilité, on peut laisser ça. J'insisterai, ce n'est pas exclusif, mais j'insisterai davantage sur le fait que quand on affirme, prenons quelques exemples un peu bruts peut-être, mais entrons vraiment dans le préjugé concret, quand on affirme que tous les musulmans sont des fanatiques, quand on affirme que les fonctionnaires sont des fainéants, quand on affirme que même des choses du genre il faut respecter la nature,
que les juifs sont
pingres, etc. Voilà, par exemple, on ne pense pas, on affirme. Et c'est ça qui m'intéresse ici. Et c'est ça le préjugé, et c'est ça éventuellement d'ailleurs toute sa violence aussi. On se contente d'affirmer sous l'apparence d'un jugement. C'est-à-dire que là, ce sont en plus des affirmations qui procèdent du oui-dire, qui procèdent des images, qui procèdent des sentences rassurantes, qui procèdent, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'éducation, de la paresse, de la lâcheté, de tout ce qu'on veut, mais certainement pas de l'analyse ou de l'examen un peu sérieux.
Et quand on entend les exemples que vous prenez qui sont à dessein caricaturaux, caricaturaux du préjugé, quand on entend les exemples que vous prenez, on comprend également la nécessité, l'enjeu qu'il y a justement à essayer de construire une pensée autonome. Oui. C'est-à-dire une pensée, enfin on va voir en quoi elle consiste, mais une pensée autonome qui ne soit pas donc une opinion toujours suspecte d'être finalement dictée par des préjugés.
Voilà, alors surtout, encore une fois, que l'herbe soit verte, c'est très bien, mais que tous les musulmans sont des fanatiques, c'est, comme vous dites, un autre enjeu. Donc, qui est aussi l'enjeu de ce sujet. Donc, si on redéfinit ce que c'est que penser, la conséquence que je tire, c'est que penser nécessairement n'est pas préjugé et ne peut pas impliquer de préjugé. Si on définit le fait de penser par le fait de réfléchir, d'examiner, de questionner, d'exercer effectivement un examen critique, c'est-à-dire des activités intellectuelles ou rationnelles, alors penser semble bien s'opposer au préjugé. Et donc penser avec préjugé, ce n'est pas penser. Donc, soit la réponse au sujet est évidente. Peut-on penser sans préjugé ? Bah, évidemment, dès lors qu'on parle de penser, il n'y a pas de préjugé. Ou bien, effectivement, nous n'avons que des préjugés et il ne serait pas alors rigoureux de parler de penser. Bon, soit l'un, soit l'autre. C'est la raison pour laquelle, Platon, par exemple, différencie, distingue expressément l'opinion de la pensée discursive. C'est la raison pour laquelle Spinoza va expressément distinguer le fait d'imaginer du fait de raisonner, et que toute une tradition philosophique a toujours distingué des formes inférieures, disons, de connaissance ou de pensée, d'une pensée qu'elle-même promouvait en tant que philosophie.
Alors, tradition à laquelle on peut opposer, par exemple, la position nietzschéenne qui consiste à dire que la vérité est un préjugé comme les autres, finalement, et qu'elle est à ce titre un mensonge presque supérieur au mensonge, puisqu'au moins c'est un mensonge qui ne se présente pas comme tel.
Oui, on y vient tout à l'heure.
Pardonnez-moi, allez-y.
Donc, si vous voulez, peut-on penser sans préjugé ? Oui, dès lors qu'on pense, et dans la mesure où le préjugé, c'est justement l'impensé. Concluons sur ce moment. Il est évident, donc je dirais, qu'on peut penser sans préjugé, et que dès lors qu'on pense, la question de la possibilité même de penser sans préjugé ne se pose plus, dès qu'on parle effectivement de pensée.
Est-ce qu'un élève qui terminerait sa dissertation là, qui s'arrêterait sur ce point-là, pourrait recevoir une bonne note de son correcteur, ou est-ce que son correcteur se dirait « Tiens, c'est pas mal, mais on pourrait aller plus loin. »
On peut mieux faire.
Ouais.
Ça me semble un petit peu limite.
Ouais.
Ça me semble un petit peu court encore, pour une raison simple, qui est effectivement la raison d'une certaine inconséquence des plans en deux parties. Je veux dire par là que si en effet...
On peut aller à quatre, mais il ne faut pas s'en tenir à deux. Hein.
Non, voilà, voilà pourquoi c'est trois, quatre...
C'est pour ça que je vous pose la question.
En quatre heures, en tout cas. Et pour ce qui s'appelle une dissertation, bien sûr. Si j'ai développé un premier moment en disant qu'il était presque impossible de penser sans préjugé, selon une certaine acception du terme « penser », et un deuxième moment, sorte d'antithèse entre guillemets, on dit, c'est soit penser sans préjugé, à la question « peut-on penser sans préjugé ?», finalement, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Et là, je me trouve un petit peu court. Je suis en train d'examiner, effectivement, les modalités de réponse et les exceptions conceptuelles, si vous voulez, mais je suis là presque dans une impasse, d'où il faut que je me sorte. Et c'est la raison pour laquelle m'arrêter là me semblerait quand même un petit peu court.
Alors continuons. Comme dirait Garcin à la fin de Huis clos, Danino, on est avec vous, hein, pensez sans préjugé. Hein. Numéro 1, on pense à partir des opinions reçues. Numéro 2, quand on pense, on se passe de préjugés si on redéfinit la pensée, soit par son activité réflexive, soit en l'étendant justement à ce que Descartes dit d'elle, l'imagination, le désir, le rêve, et ainsi de suite.
La question qui émerge maintenant... Et la suivante, est-ce que cette façon de dire soit on pense, soit on préjuge n'est pas un petit peu facile, n'est pas un petit peu trop directement posée, comme si la pensée était donnée ? C'est-à-dire d'où vient cette pensée dont je parle là, qui se dispense aussi facilement de préjugés ? D'où est-ce que ça vient ? Est-ce que c'est un donné ? Est-ce que c'est acquis ? Est-ce qu'effectivement, ce n'est pas un préjugé ? Alors peut-être qu'il suffit effectivement de penser pour ne pas préjuger, mais compte tenu de l'ancrage du préjugé, de la force des préjugés, et Descartes effectivement parle de la peine à nous en délivrer entièrement, du danger que ça représentera. Compte tenu de cette force, la pensée n'est pas donnée sans préjugé, mais peut-être à le devenir, c'est-à-dire donc à lutter, à combattre. C'est-à-dire que ce qui me semble nécessaire maintenant, c'est de passer à l'idée d'une pensée qui est un apprentissage, qui est un travail, qui est un effort, c'est-à-dire, puisque c'est notre problème, d'une autonomie donc qui se conquiert, qui a le statut d'un résultat, qui est un travail d'émancipation, finalement.
Et donc, on en vient à la troisième partie.
Voilà. La troisième partie, effectivement, après penser... avec penser sans serait penser contre les préjugés, c'est-à-dire en effet entrer dans les modalités, les conditions d'un affranchissement des préjugés, si tant est qu'on prenne au sérieux, et je crois que c'est sérieux, cette force des préjugés. un travail qui consiste d'abord à penser sans doute contre soi-même.
Je voudrais vous poser une question justement à ce sujet, Philippe Daninot. Le temps presse, mais enfin quand même. Est-ce que par exemple, lorsque Raymond Aron entend le général de Gaulle parler du peuple d'élite, sûr de lui et dominateur, en parlant du peuple juif, il est ulcéré, il veut prendre la plume contre cette sortie du général de Gaulle, ce qu'il finira par faire, mais il hésite au début à prendre la plume car il redoute qu'on lui reproche de le faire en tant que juif. C'est-à-dire qu'il redoute qu'on impute à la démarche d'homme de raison qu'il est, qu'on reproche à cette démarche d'être en réalité dictée par l'appartenance qui serait la sienne au peuple en question. Est-ce que finalement c'est ça l'enjeu ?
L'enjeu, c'est ça. C'est-à-dire que là, effectivement, je pense que le souci d'Aron, c'était en effet de présenter, je dirais, un jugement autonome à l'égard, en effet, de cette phrase du général de Gaulle. L'enjeu, c'est toujours, si vous voulez, un enjeu peut-être moins de vérité que de liberté. En fait, c'est ça, je crois. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas vraiment parlé de vérité. Je ne crois pas que ce soit le problème de ce sujet quand on pose le problème de l'autonomie de la pensée. L'autonomie de la pensée, c'est la faculté qu'une pensée aurait de procéder suivant ses propres lois. Et dès lors, en effet, que je procède du oui-dire uniquement de ce que j'ai appris, de ce que je lis ici et là, de ce que je vois à la télévision, de ce que je lis dans les journaux, etc., sans cette part, en effet, individuelle de jugement, je peux dire que je suis dans le préjugé. Donc, il s'agit en effet, là, de l'acquisition d'une liberté de pensée. Je crois que c'est ça qui se jouait dans sa propre image à Raymond Aron à l'égard du général de Gaulle.
Mais en même temps, c'était pas faux de le penser après tout. Non, Raymond Aron, dans les années 60 en particulier, vivait ce qu'il a dit lui-même, un retour de judaïsme. Est-ce qu'il n'est pas illusoire, et là encore un préjugé, de prétendre qu'on puisse s'affranchir de ces déterminations, parvenir comme ça à... En somme, qu'il suffirait de penser contre soi-même pour penser en liberté.
Alors, étudions d'abord ce que c'est que penser contre soi-même et ce que serait cette pensée comme effort qui est finalement, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce sujet-là, qui est l'effort même de la philosophie. Si vous voulez. Il y a plusieurs formes possibles de ce travail, de cet effort ou de ce remède, comme on veut. Si on peut, dans un premier moment, en revenir à Descartes, au doute et surtout à l'idée d'une élaboration de la méthode. Vous parliez de la table rase. La table rase, le fait de douter de tout, c'est l'entreprise délibérée. Ce n'est pas, si vous voulez, la conclusion à laquelle un sceptique arriverait. C'est l'entreprise délibérée d'un recommencement d'une pensée qui est elle-même en quête de vérité. Et ce recommencement a deux aspects, donc le doute et la table rase. On connaît donc ce fameux projet, la première des méditations métaphysiques, à savoir entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues dans cette réception.
Jusque alors
en ma créance, et commencer tout de nouveau, dès les fondements, si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences.
C'est ici l'entreprise d'un homme qui préjuge que la fermeté et la constance passent par l'abandon de tout ce qu'il a reçu jusqu'ici en sa créance.
Par où la philosophie, effectivement, pourra peut-être toujours rêver de se passer de préjugés. On examinera ça, c'est ce qui légitimera la quatrième partie, si vous voulez, pour ça. Premier aspect, donc, cette entreprise de doute et de table rase. Deuxième aspect, donc, son fruit, si je puis dire, la méthode. La méthode pour bien conduire sa raison, et en particulier, sans faire tout un topo sur la méthode de Descartes, la règle de l'évidence, dans la deuxième partie du discours de la méthode, ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention. Et c'est ce terme-là qui m'intéresse ici. La prévention, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme que Descartes reprend toujours à titre de menace de l'exercice de la raison. C'est la persistance, justement, dans notre pensée, de jugements irréfléchis. C'est la persistance de jugements que nous avons portés sur les choses, justement, au cours de notre enfance, qui laissent des traces, qui s'imposent encore, et comme si nous les avions démontrés. Bon. Donc ici, c'est un préjugé, c'est de l'ordre du préjugé, hein, la prévention. Et cette méthode a donc pour but le fait que la pensée puisse justement se réapproprier, en quelque sorte, elle-même dans son exercice rationnel et donc conquérir son autonomie. Premier aspect de cette pensée, de cette autonomie comme effort. Le deuxième aspect, c'est revenir à Kant. Donc, vous voyez, finalement, je travaille relativement peu de différence, de référence, excusez-moi, dans la mesure où il s'agit plutôt de les rendre pertinentes et de les exploiter un petit peu précisément.
Ça, c'est un conseil méthodologique fondamental. Hein. Ouais. Ce qui compte, ça n'est pas la somme des références, ça n'est pas toute la poudre aux yeux qu'on a dans sa besace pour le jour du bac. Ce qui compte, c'est d'ailleurs davantage la capacité à retravailler un même exemple ou un même texte pour montrer qu'en le creusant, justement, on peut à la fois montrer les limites et montrer comment le dépasser.
Voilà, contrairement à ce que pensent pas mal d'élèves, on n'est pas payé au kilo de citation, du tout. Mmh. Voilà. Mais au bon emploi et au bon usage de quelques références pertinentes.
Oui, qu'au moins on élimine ce préjugé-là.
Voilà, au moins, oui. Deuxième aspect, donc, Kant, c'est le courage de l'autonomie. En revenant sur le même texte,
qu'est-ce que le premier ?
Sapere aude et le courage de te servir de ton propre entendement. C'est-à-dire que contre effectivement, enfin, je veux dire, dans la promotion de ce passage à la majorité, Kant ne dit pas que c'est facile. Il prend effectivement la métaphore de la marche. Il faut se mettre à penser par soi-même, comme on doit se mettre à l'eau pour apprendre à nager. Voilà, on doit lâcher les béquilles, comme le petit enfant doit lâcher en effet ses tuteurs pour apprendre à marcher de lui-même. Donc là, il y a la question d'une décision, la question d'un courage, la question sans doute d'une violence à se faire, et qui, dans ce texte de Kant, j'y insiste, on n'a pas trop parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui est un enjeu tout à fait politique. Hein, c'est de se défaire de tuteurs qui seraient prêts à exploiter, si vous voulez, la crédulité, les préjugés de la foule. Il parle du bétail, Kant, et pour effectivement donc maintenir dans l'inintelligence, un groupe beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile du coup à manipuler, bien sûr.
C'est ce que dit Spinoza également. On peut passer par lui, hein, dans la préface au traité théologico-politique, quand il explique que pour dompter la multitude, l'expression est de lui, me semble-t-il, on a besoin de l'espoir comme de la crainte, qui sont les deux préjugés qui gouvernent les hommes. Élève d'Anino, il nous reste 2 minutes.
Oups. Alors, on en viendrait donc à la philosophie elle-même comme éducation de la pensée. Et si j'avais eu du temps, j'aurais dit quelques mots sur, un peu comme mise en abîme, le fait que ce sujet donne à penser le sens même d'un enseignement de la philosophie. Je réinterrogerai cette autonomie ainsi acquise dans un quatrième moment pour montrer les limites d'une pensée sans préjugés qui permettrait d'ouvrir à une positivité du préjugé. Ce que je veux dire par là, donc, pour résumer un peu les choses, c'est que...
Car vous êtes là dans la position de l'élève à qui il reste 10 minutes pour rédiger sa conclusion.
Oui, oui, oui. Alors j'écrirai très très vite.
Écrire très vite, absolument.
Illusion d'une exemption totale de tout préjugé. Est-ce que l'homme de science ne préjuge pas de la nature en ordre, de la nature permanente, d'une harmonie de la nature pour pouvoir travailler ? Est-ce que Descartes ne préjuge pas de l'efficacité du doute ? Est-ce que les philosophes, comme le dit Nietzsche, vous le citiez tout à l'heure, ne sont pas les premiers à poser leurs préjugés, ne sont pas, comme il le dit, les avocats de leurs préjugés qu'ils baptisent vérité ?
Oui, donc, c'est ça, en tenant la vérité pour la bonté, finalement, ou en faisant un bien en soi. Voilà. Est-ce que les philosophes ne cèdent pas, justement, à la tentation du préjugé ? Quel préjugé sous-tend l'ambition de penser sans préjugé ?
Voilà, c'est ça. Donc, ici, ce qui est interrogé, c'est finalement le mirage d'un vrai jugement. On n'en finirait jamais de juger, si vous voulez. Est-ce que juger est possible ? C'est-à-dire, est-ce que atteindre tous les éléments requis d'un véritable jugement est possible ? Il semble qu'on n'en finirait pas de questionner, d'essayer de fonder son propre propos, de telle sorte que, en ce sens-là, on ne pourrait pas penser sans préjugés. Mais peut-être que c'est ici, en effet, que le préjugé peut prendre une autre forme, un autre aspect, celui d'un jugement provisoire, dont on aurait besoin, par exemple, en morale, dans la morale par provision. Où il vaut mieux effectivement préjuger que tuer autrui n'est pas la meilleure chose à faire, c'est-à-dire en effet d'un jugement préalable fondé en raison et qui là, paradoxalement, serait le moyen de la pensée et permettrait la pensée. C'est-à-dire que, en tant que jugement provisoire, il s'agirait de justifier de cette exception-là, le préjugé peut se transformer en moyen de la pensée et même en moyen de la propre autonomie de sa pensée. Et en ce sens, donc, penser serait toujours préjugé. Just anybody. Help! You know I need someone.
On peut vous aider, chers candidats, avant l'épreuve, pendant l'épreuve, vous êtes livré à vous-même, chargé de penser par vous-même, c'est-à-dire également contre vous-même. On vient de le comprendre avec vous, Philippe Danino. Merci infiniment. Je rappelle que vous enseignez en terminale au lycée Buffon et que vous êtes d'ailleurs venu accompagné d'une quinzaine de vos élèves qui se sont tenus sages comme des images. Toute cette semaine sur France Culture, dans les nouveaux chemins de la connaissance, autour du bac philo, et se fait en partenariat avec Philosophie Magazine, dont l'excellent hors-série, le guide de survie du bac philo, eh bien je vous le recommande chaleureusement. Suite demain donc de cette semaine, je vais essayer de le dire en bon français, je recevrai Nathalie Chouchan qui enseigne en classe préparatoire, donc en Cagne, au lycée Condorcet à Paris, et qui proposera le sujet suivant, prétendre distinguer l'homme de l'animal, est-ce légitime ? Voilà, ce sera la question du jour. Demain, à la technique aujourd'hui, Philippe Mercher, à la réalisation Cédric Ossir, assistant et collaboration Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo, Igor Kortolitsa, à la bande-son Les Beatles, sur France Culture, il est 17h50, tout de suite, le citoyen Albert Jacquard.